France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques. Au 9e jour de la guerre en Iran, Téhéran vient donc de choisir un successeur. À l'ayatollah Khamenei, éliminé dès le premier jour par des frappes israélo-américaines, son nom reste inconnu. Hier, le président iranien Massoud Pezeshkian a promis que son pays ne se rendrait jamais. De son côté, Donald Trump affirme qu'il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une capitulation sans condition. Et au Liban, Israël continue d'attaquer le Hezbollah, la milice chiite armée par les Iraniens. Le théâtre des conflits, vous le savez, s'est élargi avec des missiles iraniens qui frappent les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar. La France, quant à elle, est déjà touchée économiquement. Dans certaines stations-service, le prix des carburants dépasse désormais les 2 euros le litre. Les Français, les Européens seront-ils aussi entraînés militairement dans une guerre qu'ils n'ont pas décidée? Discussion géopolitique ce midi, politique également bien sûr, dans une semaine, ce sont les municipales. Avec notre invité, un ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vice-président de la Commission à Bruxelles. Il est aujourd'hui député Les Républicains de Paris. Michel Barnier est en direct sur France Inter, France Info, le canal 16 de la télévision, une émission en partenariat avec le journal Le Monde, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
France Inter, questions politiques, Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Michel Barnier.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Merci de l'avoir accepté. À mes côtés pour vous interviewer, je les salue, Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Tout à l'heure, évidemment, le portrait de Michel Barnier.
Oui, Michel Barnier, lorsque vous entrez à Matignon, vous avez déjà été 4 fois ministre, 2 fois commissaire européen, député, sénateur. Derrière une image un peu lisse, les Français découvrent alors un style Barnier et à l'évidence un homme qui nourrit de grandes ambitions.
Notre confrère du Monde, Abel Mestre, est également avec nous en plateau. Bonjour Abel.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Tout à l'heure, ça sera vers la fin de l'émission. Nous prendrons de l'avance sur 2027, les grands débats qui animeront la présidentielle. Ce dimanche, vous avez choisi de parler avec Michel Barnier de...
réindustrialisation. Mercredi, la Commission européenne a présenté un texte qui met en place une préférence européenne pour lutter contre la désindustrialisation. J'y arrivais, merci, pardon. Mais on se demandera si c'est suffisant pour lutter contre le géant chinois.
Mais d'abord, Michel Barnier, 5 minutes entre 4 yeux avec évidemment la dernière actualité. On a appris il y a une heure que le nouveau guide suprême iranien venait d'être nommé. Le président iranien promet que son pays ne se rendra jamais. Donald Trump, le président américain, exige désormais une capitulation. Cette guerre au Moyen-Orient, qu'est-ce qui peut l'arrêter maintenant? Qui peut l'arrêter?
Est-ce que d'abord vous me permettrez de dire un mot de la journée aujourd'hui internationale des droits des femmes, hein, et des combats qui, depuis ceux de Simone Veil jusqu'à Gisèle Pellicot, font que dans notre société, on a beaucoup de raisons de redire toujours et encore qu'il faut respecter les femmes. Voilà. Donc voilà, je voulais dire cela. Maintenant, sur ce conflit, et en parlant des femmes, naturellement, on doit, je viens à votre question, madame, parler du courage extraordinaire des femmes d'Iran, hein, et du peuple iranien. Quels sont les buts de guerre de M. Trump? C'est pas très clair. Hein. Quand on écoute son ministre des Affaires étrangères, M. Rubio, le ministre de la Défense, le président lui-même, on ne sait pas très bien si c'est ou si c'était seulement de détruire l'ensemble des sites nucléaires, cachés ou connus, de détruire les bases de lancement de missiles ou alors de changer le régime. On a l'impression depuis quelques jours, depuis quelques heures, qu'ils veulent changer le régime. On ne sait pas très bien. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a aucune sorte de complaisance à avoir à l'égard du régime des Pasdaran et de Téhéran.
Mais disant cela, est-ce que vous dites que les États-Unis ont eu raison? Est-ce que les frappes israélo-américaines, c'était une bonne chose?
Je veux dire pourquoi il faut d'abord considérer que ce régime doit changer, doit disparaître tel qu'il est. Ce régime, c'est un régime qui a la volonté d'exporter le terrorisme, y compris chez nous, et soyons vigilants. Il a l'objectif de détruire l'État d'Israël, et en ce qui me concerne, je dis ce que je disais lorsque j'étais Premier ministre, la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Et troisièmement, il martyrise son peuple au point qu'il y a quelques semaines, début janvier, ce régime c'est assez rare de voir un régime tuer ses propres enfants et son propre peuple. C'est arrivé du temps de Pol Pot et d'autres, mais je ne parle pas d'Hitler, mais là, on a tué 35 000 jeunes manifestants parce qu'ils manifestaient pour leur liberté. Donc ce régime...
Donc vous souhaitez le changement de régime, vous-même, Michel Barnier.
Tout le monde souhaite ce changement changement de régime. Tout le monde le souhaite. Donc, c'est trop tard pour dire si c'était bien ou pas bien que les Américains et les Israéliens interviennent. J'ai expliqué pourquoi Israël a des raisons de s'auto-défendre par rapport à une menace existentielle qui pèse sur elle. Ce régime a continuellement, jour et nuit, répété qu'il voulait détruire Israël. Et on peut comprendre qu'Israël se défende, comme ils se sont défendus après les attentats terroristes du 7 octobre.
On entend dans votre bouche, disons cela, une validation, finalement, des attaques, des frappes israélo-américaines.
Non, il n'y a pas de validation ou d'invalidation. C'est un fait. Et M. Trump nous a habitués à ne pas demander la permission pour jouer les gendarmes du monde, contrairement d'ailleurs à ce qu'il avait promis quand il est redevenu président. Hein. On est loin de ce repli sur les frontières nationale américaine, on voit qu'il met de l'ordre ou qu'il essaye de remettre sa marque un peu partout. Cette intervention a eu lieu, les Israéliens s'y sont associés, il faut maintenant gérer les conséquences.
Et que peut faire la France ?
La France et l'Europe n'ont pas été informés de cette initiative et nous devons accompagner. D'abord, vous me permettrez aussi, puisque je parle des hommes et des femmes, de dire un mot de solidarité et de soutien à tous ceux qui sont confrontés directement. Nos soldats sur le Charles de Gaulle et sur d'autres bateaux.
Vient d'arriver en Méditerranée, le Charles de Gaulle.
Il est arrivé en Méditerranée et il y a beaucoup de soldats français dans cette région et des bases militaires. Il y a aussi des diplomates qui sont courageux. Ceux qui s'occupent de Cécile Collère et Jacques Paris retenus à Téhéran, les diplomates et les entreprises aussi, les salariés des entreprises qui sont sur place expatriés. Vous savez qu'il y a 3 millions de Français qui vivent dans le monde, à l'extérieur de la France, et notamment beaucoup dans cette région, et puis les compagnies aériennes. Donc je pense à tous ces hommes et ces femmes, y compris les diplomates à Paris qui s'occupent de solidarité, pour leur dire notre solidarité et notre soutien.
Le chef de l'État se rend demain à Chypre, qui a été frappé par des drones. On l'a dit, le porte-avions Charles de Gaulle est désormais en Méditerranée. On a un déploiement français avec des rafales, une frégate, des moyens de défense anti-aérienne. Tout le monde se demande jusqu'où la France peut être entraînée dans ce conflit. Et je vous propose, avant d'entendre votre réponse, d'écouter la ministre des Armées, Catherine Vautrin.
La France est dans une position défensive, elle répond à une demande de pays attaqués. Voilà la position de la France, défensive, réponse à des pays attaqués avec lesquels nous avons des accords de défense. C'est quand on dit qu'on a un accord de défense, on nous demande de l'activer, nous l'activons. C'est cela la fiabilité de la parole française.
Alors, une position défensive, alors qu'on a des accords de défense. Est-ce que, Michel Barnier, vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, est-ce que vous dites c'est tenable ? Ça paraît difficile ?
Oui, la frontière est toujours étroite entre ce qui est défensif et offensif. En tout cas, nous avons 3 accords de solidarité militaire avec 3 États de cette région, notamment les États arabes unis, et il faut être à la hauteur de ces accords, et si ces pays nous demandent notre aide, de leur apporter.
Mais alors ça veut dire des armes, aussi... ça veut dire des hommes, qu'est-ce que ça veut... En fait, quand on est de l'autre côté du poste...
Ça peut vouloir dire jusqu'à, y compris avec nos propres armes, en accord avec notre solidarité avec ces pays, détruire des bases logistiques qui attaquent ces pays. Quand vous voyez qu'au Bahreïn, et dans d'autres cas, vous avez des missiles et surtout des drones iraniens qui tombent un peu n'importe où, y compris sur des usines de dessalement actuellement, des installations vitales, on peut imaginer que la France, en harmonie avec ses accords, aille détruire et contribue à détruire ces bases d'où partent ces missiles et ces drones.
Et quand on pense que
il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en termes de solidarité. Il y a ce que nous pouvons faire dans le détroit d'Ormuz, avec d'autres forces européennes ou américaines pour garantir la fluidité du trafic. Et ça, il en va de l'économie et de l'intérêt général de l'économie mondiale, puisque 20% du pétrole et du gaz passent par le détroit d'Ormuz. Et puis, permettez-moi de dire un mot du Liban.
Où se trouve la FINUL, la force, intérimaire des Nations Unies.
Plusieurs centaines de soldats français. 700 Français.
Est-ce qu'on peut dire que cette guerre n'est pas la nôtre, avec la FINUL qui a été visée ? Est-ce qu'on peut dire cela ?
Non, je ne dis pas que cette guerre n'est pas la nôtre, en tout cas...
C'est la nôtre ?
Je dis que nous sommes solidaires du peuple libanais, qui est un peuple frère. Et donc, s'agissant du Liban, peut-être il faudra un jour s'interroger et évaluer l'action et les résultats de la FINUL, qui est spectatrice et qui est attaquée. Mais il y a des raisons d'être solidaires du peuple libanais, à la fois sur le plan humanitaire, avec 400 000 personnes qui ont été obligées de rejoindre le nord du Liban et de Beyrouth, et puis il y a sans doute à aider le gouvernement actuel du Liban, le président libanais, à consolider son armée pour aboutir réellement à ce qui était promis et engagé, ce qui n'a pas été fait complètement, la démilitarisation du Hezbollah. Parce que c'est ça la menace.
La milice chiite armée par les Iraniens. Michel Barnier, si vous voulez bien, on ouvre la conversation à Abel Mestre et Alix Bouyaguet. Question d'Abel.
Oui, justement, vous parliez du rôle de la France sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Est-ce que c'est à la France de prendre le leadership d'une voie diplomatique de l'après-conflit ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est comme ça que la France peut revenir dans le concert des nations sur ce sujet du Moyen-Orient ?
Notre pays, et comme d'ailleurs je le dis en passant, le Royaume-Uni a une longue histoire au Proche-Orient, parfois des histoires d'ailleurs controversées et contradictoires et parfois tragiques. Et donc j'ai toujours pensé que s'agissant d'Israël, du destin de la Palestine, de la stabilité de région, le Royaume-Uni et la France auraient, et je l'ai dit d'ailleurs un jour à Londres, à travailler ensemble plus qu'ils ne l'ont fait dans le passé, et puis à entraîner les autres Européens. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'on voit les Américains mener leur propre politique avec notre argent, notamment quand il s'est agi de reconstruire la bande de Gaza. Donc oui, nous avons un rôle pour la diplomatie, et l'Europe a un rôle pour la diplomatie, pas seulement de reconstruire, mais d'aboutir à la paix. Nous avons des liens avec beaucoup de ces pays, mais le moment n'est pas là. Le conflit est en train de s'intensifier, il y a des bombardements dans tous les sens, donc il faut que ce conflit s'arrête.
On ne peut pas engager en parallèle une voie diplomatique en même temps que...
Avec qui et comment ? On ne va pas discuter avec le régime actuel qui tient debout et qui peut d'ailleurs tenir debout plus longtemps qu'on ne le croit ou qu'on l'espère à Téhéran. Méfions-nous du système iranien, des Pasdaran, des Basiji, qui sont le deuxième étage de surveillance du peuple iranien, tous ces gens qui se baladent en pick-up ou en moto avec leur Kalachnikov. Ce régime est très solide encore, hein, donc il n'est pas tombé. On voit bien que le moment n'est pas celui de la diplomatie.
Concernant cette intervention, on a eu le sentiment qu'Emmanuel Macron a fait un petit peu du « et en même temps », c'est-à-dire ni condamnation franche de l'intervention américaine, ni assentiment. Est-ce que c'était, de votre point de vue, la bonne ligne ? Ou est-ce que, finalement, ne rien faire, c'est passer à côté de l'histoire, avec un peuple opprimé ?
Non, je pense que le président a eu la bonne attitude. On ne va pas faire de surenchère. Il faut aussi pratiquer le réalisme en diplomatie. Et le réalisme, c'est de reconnaître que les Américains n'ont demandé la permission à personne pour intervenir avec et aux côtés d'Israël, qui défend sa propre sécurité, et qu'aujourd'hui, il faut gérer les conséquences de cette crise, à la fois sur le terrain. J'ai parlé du Liban, j'ai parlé de la solidarité avec des pays avec lesquels nous sommes liés, j'ai parlé du rôle que nous pouvons jouer, qui n'est pas un rôle seulement défensif, pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Je voudrais aussi dire qu'il y a une leçon à tirer sur les stocks d'armement. Un jour ou l'autre, peut-être assez proche, il y aura une pénurie d'armement, d'armes, de munitions. On le voit déjà sur certains pays, et peut-être aux États-Unis, y compris les outils qui coûtent très cher de défensifs et d'interception des missiles. La leçon que je tire de ça, c'est qu'il ne faut pas être à court de munitions. Et donc, il faut produire.
C'est un message
pour l'Europe, pour la politique de défense. Il n'y a pas de politique de défense des Européens. Et on voit bien que si nous ne faisons pas pour l'Europe ce que nous devons faire nous-mêmes, personne ne viendra faire notre place. Et notamment, avoir des armements, des munitions, ça veut dire qu'il faut continuer à produire et faire des stocks.
On vous entend bien, vous êtes en train de nous dire ce matin que ça va durer. Vous pensez que ce conflit va durer ? Peut s'enliser même.
Je ne vais pas faire de spéculation, mais on a le sentiment que ça peut durer, en tout cas aussi longtemps que le régime de Téhéran reste ce qu'il est, et aussi longtemps que M. Trump n'aura pas des considérations de politique intérieure, peut-être pour changer de position avec lui. Les choses sont assez imprévisibles.
Vous pensez, quand vous dites considération de politique intérieure, qu'est-ce que c'est ? Les cordes de rappel, c'est quoi ? Aux États-Unis.
C'est le mécontentement ou l'incompréhension dans son propre camp, et on le voit bien, qui est assez fort, l'approche des élections de mid-term.
Novembre.
Les mouvements sur les marchés financiers, auxquels M. Trump est toujours très sensible parce qu'il est entouré des spéculateurs et de financiers. Et puis, le désordre que ce conflit va créer dans le monde, en termes d'énergie notamment.
Justement, sur ce sujet, est-ce que l'ONU n'a pas un rôle à jouer ? On a l'impression qu'elle est aux abonnés absents. Est-ce que vous diriez, comme Gabriel Attal, sur ce plateau la semaine dernière, que l'ONU est devenue une ONG diplomatique, un simple guichet humanitaire, ou est-ce qu'elle a un rôle ?
Moi, j'ai pas bien compris cette condescendance de M. Attal à l'égard des Nations Unies. Je reste persuadé que nous avons besoin d'un droit international, d'outils multilatéraux, et qu'il faut continuer à soutenir les Nations Nations Unies, même si actuellement ils sont en circuit, parce que vous avez dans ce monde, il faut bien en prendre conscience de manière réaliste, vous avez des empires qui se créent ou qui se consolident, l'empire chinois, on pourra en parler tout à l'heure, les Russes qui nous agressent, et les Américains qui ne nous aiment pas. Pour la première fois depuis 65 ans, le président des États-Unis d'Amérique ne soutient pas le projet européen. Donc ça, c'est une leçon aussi pour nous.
Je reste persuadé
qu'il faut des lieux multilatéraux de dialogue entre ces différents endroits du monde, et si je puis me permettre de le rappeler, il n'y a pas que ces trois empires, il y a des dizaines de pays avec lesquels nous pourrons discuter, l'Inde, le Brésil et d'autres.
Hein. Michel Barnier, Donald Trump, si les pays européens ne coopèrent pas, il les dénigre, n'est-ce pas ? Avec l'Espagne, on l'a entendu, avec le Royaume-Uni qui est pourtant très proche, Trump a déclaré au sujet du Premier ministre Keir Starmer, c'est pas un Winston Churchill qui est en face de nous. Est-ce que sont encore, et puis là vous venez de détailler la position de Washington et sa décision d'y aller tout seul, est-ce que ce sont encore des alliés les Américains ?
Oui, on pourrait dire que Trump, c'est pas Roosevelt ou c'est pas Obama. Tout ça, ça sont des mots et des polémiques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt.
C'est humiliant. Humiliant pour les Européens.
Je trouve qu'on va pas commenter les mauvais points ou les bons points que M. Trump distribue, y compris à ses propres amis quelquefois, ou à son gouvernement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est important, c'est de tirer des leçons.
Mais est-ce que ce sont des alliés ?
On a parlé des stocks, on a parlé du Liban, on a parlé du détroit d'Hormuz, on doit parler de la politique de défense, de l'avenir politique de l'Europe, de notre capacité d'être autonome sur le plan de l'énergie, et de faire pour nous-mêmes ce que plus personne, on le voit bien, y compris que les États-Unis, viendra faire à notre place. C'est vrai pour la France et c'est vrai pour l'Europe aussi.
La question des alliés, est-ce que ce sont des alliés ?
Oui, mais...
La réponse n'est pas claire, Michel Barnier.
Moi, je considère que les Américains sont toujours des alliés, mais l'alliance, ce n'est pas l'allégeance. Et on n'est pas des alliés. Moi, je suis gaulliste depuis que j'ai 15 ans. On pourra en parler à propos de la force de dissuasion. L'alliance, ce n'est pas l'allégeance, c'est le respect mutuel. Je me demande, pour tout vous dire, combien de temps il faudra pour que M. Trump, là où il est, comprenne qu'à force d'ignorer, de marginaliser, d'humilier quelquefois ses alliés, notamment les Européens, il se tire une balle dans le pied. Combien de temps il faudra pour se rendre compte qu'il est en train de désespérer ses plus proches amis et de faire des actions qui sont contre-productives pour les intérêts américains ?
Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau européen, est-ce que vous avez compris la réaction de l'Espagne qui dénonce une action militaire unilatérale, injustifiée et dangereuse, tourner le dos aux Américains, leur refuser par exemple l'utilisation de leur base militaire ? Est-ce que le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a eu raison ?
Non, je ne crois pas qu'il ait eu raison. D'abord de se désolidariser ainsi des Anglais, des Allemands ou des Français, mais c'est sa position, on la respecte. Ça me conduit d'ailleurs à une réflexion sur une des leçons à tirer pour l'Europe, qui serait de changer le paradigme et de changer un peu le logiciel européen en matière de politique étrangère et de défense, puisqu'on voit bien que les responsabilités ne sont pas claires. Madame von der Leyen, qui essaye de tout faire et un peu trop, en dehors de même de ses compétences, je pense que le moment est venu de réfléchir à ce que pourrait être un Conseil européen de sécurité et de défense, regroupant en dehors des institutions actuelles, de manière intergouvernementale, entre les États, entre les nations, tous ceux et toutes celles qui ont un engagement plus fort pour la défense. Alors, pense à l'Allemagne, à la France, bien sûr à l'Italie, à la Pologne.
En parallèle aussi de l'OTAN, un machin en plus, si on voulait paraphraser De Gaulle.
Non, je ne parle pas d'un machin en plus, je parle d'une structure de travail, Conseil européen de sécurité et de défense, qui serait le lieu où les Européens volontaires, un peu dans l'esprit des coalitions du volontaire...
Donc c'est à deux régimes, si je puis dire. Ça veut dire qu'il y a ceux qui veulent bien participer, ceux qui ne veulent pas, il y aurait des droits de veto, ça fonctionnerait comment ?
Non, je ne sais pas comment ça fonctionnera, on verra bien. La question c'est, est-ce qu'il faut ne pas créer un cadre où ces pays, y compris le Royaume-Uni et la Norvège, et peut-être un jour l'Ukraine, se retrouveraient pour parler politique étrangère, défense, coopération en matière d'intelligence, et peut-être aller plus loin dans des sujets stratégiques comme l'intelligence artificielle ou les technologies quantiques, où il va falloir beaucoup d'investissements. Dans l'esprit de la coalition des volontaires, réunir un Conseil européen qui n'aurait pas les lourdeurs et la bureaucratie de la Commission européenne ou des institutions actuelles.
Michel Barnier, le chancelier allemand Friedrich Merz met en garde contre un effondrement de l'Iran et une vague migratoire incontrôlée. Est-ce que ça fait partie de vos angoisses ? Tout à l'heure, vous avez cité le terrorisme, j'ai bien noté. Friedrich Merz parle d'une vague migratoire incontrôlée potentielle.
Oui, mais il parle d'ailleurs d'expérience, puisqu'on a vu de telles vagues se produire le passé à la suite du conflit en Irak, en Syrie, en Libye. On a accueilli beaucoup de personnes qui n'étaient d'ailleurs pas toutes réfugiées, et nous avons dû gérer cela. Je pense que c'est le chancelier Merz, que je connais assez bien, a raison d'anticiper, parce que toutes ces crises qu'on subit depuis une quinzaine d'années, ça a été la crise financière en 2008, le Brexit, on pourrait en parler, et qui comporte des leçons pour nous d'ailleurs, les crises migratoires que vous évoquez, madame, mais aussi le Covid, et puis la guerre en Ukraine, toutes ces crises, on les a abordées en défensive, le dos au mur. On s'en est plutôt bien sorti en tant qu'Européens. Quelquefois, il m'arrive d'être plus optimiste pour l'Europe que pour la France. Ce que dit le chancelier Merz est juste, parce que ça veut dire qu'il faut essayer d'anticiper et de réfléchir à l'avance pour ne pas être le dos au mur et en défensive.
Et puis, Michel Barnier, il y a aussi les conséquences économiques. Est-ce que l'État est le grand gagnant de la hausse des prix à la pompe? C'est en tout cas ce que dit le patron des supermarchés U, Dominique Schellcher.
Vous savez, le grand gagnant dans cette affaire, c'est qui? C'est l'État. Plus de 51% du prix que vous payez à la pompe part directement dans les poches de l'État, et qui en a besoin en plus actuellement. L'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas la marge du distributeur comme on peut l'imaginer, comme on l'entend de temps en temps actuellement, ce sont les taxes.
D'où le débat politique national.
Oui, c'est toujours facile de renvoyer à l'État. C'est sûr que l'État touche beaucoup de taxes.
La moitié.
Il l'a dit lui-même, c'est l'État, c'est nous, ce sont nos impôts. Si l'État réduit ses taxes sur le carburant, peut-être.
C'est la proposition du Rassemblement national.
Oui,
c'est pas une bonne idée?
Non, je ne trouve pas qu'en ce moment, ce soit responsable que de dire on va encore distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Je ne vais pas revenir sur le combat que j'ai mené comme Premier ministre pour réduire le déficit.
Le jour, quelqu'un me disait
quelle serait votre politique de jeunesse pour la jeunesse française. Je dis, la première politique pour la jeunesse, c'est de ne pas augmenter le déficit, c'est de ne pas augmenter les dettes, de tirer des chèques en bois ou en blanc sur les générations futures. On n'a pas le droit, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, nous sommes dans un moment d'instabilité, de très grande gravité et d'instabilité dans le monde. Il faudra bien qu'on assume les conséquences de cette instabilité plutôt que de vouloir les masquer ou les faire oublier. Donc, on n'a pas d'argent actuellement. Très franchement, il faut dire la vérité à ceux qui nous écoutent, donc il faut que chacun fasse un effort. Ça n'exclut pas d'ailleurs, pour les Français les plus défavorisés, ils sont plusieurs millions.
Qui ont besoin de leur voiture pour aller au boulot.
Oui, ça n'exclut pas des dispositifs exceptionnels ou transitoires de soutien.
Par exemple, un bouclier énergétique, comme on l'a vu au moment de la crise énergétique.
Je ne crois pas qu'on puisse reprendre les mêmes formules
qu'avant,
qui coûtent très cher. Nous n'avons pas d'argent, madame.
Pas de bouclier énergétique, en revanche,
On emprunte à un point tel qu'aujourd'hui, nous payons 63 milliards par an, 63 milliards d'intérêts d'emprunt. Je préfère qu'on mette cet argent dans la jeunesse, dans l'éducation, dans la sécurité publique, et peut-être dans certains dispositifs transitoires exceptionnels pour aider les plus démunis.
Transitoires exceptionnels, donc ça
en
serait pas un
je
bouclier.
Dire que...
En revanche, bloquer les prix, comme le souhaite notamment LFI, ce serait une bonne idée,
mais
ça.
LFI et le Rassemblement National n'ont pas un discours responsable, c'est pas la première fois que je le constate, c'est pour ça que je pense qu'ils ne sont pas prêts pour gouverner.
Et donc, transitoire, excusez-moi, ça veut dire quoi, là, votre mécanisme? Ce serait quoi, concrètement?
Ça veut dire un soutien temporaire aux personnes les plus fragiles pour les aider à avoir cette essence
un
dont
chèque,
ils ont besoin.
Un chèque?
Ça peut être un chèque, je ne sais pas ce que c'est. Ne me faites pas dire les choses pour l'instant.
Vous avez été Premier ministre, et vous connaissez bien les outils possibles, si ce n'est pas une baisse des taxes.
J'ai été Premier ministre avec un budget qui explose, des déficits qui explosent, et des partis politiques comme ceux que vous avez cités, LFI ou le Rassemblement National, qui ne sont pas à la hauteur des difficultés de la France d'aujourd'hui.
Est-ce que la France et l'Europe doivent se préparer à un retour de l'inflation ?
Je pense que l'inflation est bien maîtrisée, grâce notamment au rôle de la Banque Centrale Européenne, et je crois que ce n'est pas le risque principal que nous avons. Le risque principal, il est dans la désindustrialisation dont nous devons parler, dans la riposte ou la résistance que nous devons marquer à l'égard de la Chine et de ses exportations massives, et puis aussi dans la capacité d'exister par nous-mêmes autrement que comme un grand marché. Nous ne sommes pas seulement un supermarché, nous devons être un acteur global et politique.
Est-ce que vous redoutez une pénurie? On sait que tout passe, hein, carburant et gaz, par le fameux détroit d'Ormuz. 20% de la production. Est-ce que vous dites qu'il ne faut pas que ça dure longtemps, parce que ce serait une pénurie
si ce conflit devait durer avec le blocage du détroit d'Ormuz pendant des semaines et des semaines ou des mois, oui, il y aura un problème, notamment pour le gaz. J'entendais le ministre Qatari disant hier ou avant-hier qu'il stoppait toutes les exportations de gaz. Nous aurions un problème. Mais pour l'instant, nous avons des réserves plus importantes pour le pétrole que pour le gaz. Et ça nous conduit aussi, si je puis me permettre, à un travail que nous avons commencé, heureusement, forcé le dos au mur en raison de la guerre en Ukraine, à diversifier nos sources d'approvisionnement, à économiser notre énergie.
Justement, est-ce qu'il faut revenir sur le bloc...
si je puis me permettre, à consolider le choix que la France a fait, et heureusement fait, depuis le général de Gaulle et Pompidou, en faveur du nucléaire.
Est-ce qu'il faut revenir sur le blocus du gaz russe ?
Non, je ne crois pas qu'il faille revenir...
On peut s'en passer ?
Je ne crois pas... Il faille revenir sur les mesures que nous avons prises à l'égard de la Russie et de M. Poutine. Il n'y a que le langage de la force et le rapport de force que M. Poutine comprend et comprendra. Le blocage des exportations russes de gaz ou de pétrole font partie de ce rapport de force. On ne va pas lever le pied maintenant.
Ça renforcerait trop...
Moi, je pense qu'il faut diversifier, consommer moins, être plus sobre et produire davantage, y compris des énergies renouvelables et surtout consolider la filière du nucléaire comme nous l'avons fait en France, malgré certaines périodes où on a levé le pied, malheureusement.
Michel Barnier, l'actualité internationale est très présente, mais dans une semaine, les Français y seront aux urnes. Et vous êtes engagé dans cette campagne des municipales, vous avez fait un tour de France. Alors, vous êtes député de Paris, on va commencer par parler de la capitale. Ce dimanche, un sondage de l'Institut Elab pour la Tribune. Emmanuel Grégoire fait la course en tête avec 32% au premier tour. C'est le candidat socialiste. Sa rivale LR, Rachida Dati, 26,5%. C'est les intentions de vote. On comprend bien que tout va se jouer au second tour. Je donne les intentions de vote pour Sarah Knafo, la candidate Reconquête, 13,5%. Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon, également soutenu par Renaissance, et lui à 12%. On l'écoute.
Je mène campagne pour convaincre, je mène campagne pour gagner. Donc les choses sont très claires. Au second tour, je ne rejoindrai ni Grégoire ni Dati. Je mène campagne pour gagner et je pense que ce match n'est pas du tout joué.
Une question d'Abel Mestre.
Pierre-Yves Bournazel disait il y a encore deux semaines qu'il ne s'allierait pas avec Rachida Dati au second tour. Pourquoi l'alliance ne s'est pas faite avec Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel ? C'est un problème de fond, de personne ? Le souci, c'est le casting de départ avec Rachida Dati.
Il y a des personnalités différentes, peut-être des ambitions différentes. Moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu une entente dès le début. Maintenant, la question que vous posez pour Paris et pour d'autres villes, qui sont actuellement gérées par le Parti Socialiste et ses alliés, mais reconnus publics ou souterrains, comme LFI, qui s'apprête à soutenir, y compris à Paris d'ailleurs, les candidats socialistes.
Sur la droite, Monsieur Barnier.
Ces villes ne sont pas bien gérées. Non, excusez-moi de revenir sur le fond. Parce que c'est ça qui, si on veut respecter
les... Non, parce que vous n'avez pas répondu. Pourquoi l'alliance ne se fait pas entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel ? Vous parliez des personnes.
Ils ne se sont pas entendus.
Donc, c'est une mauvaise candidate.
Et je souhaite qu'ils se retrouvent le soir du premier tour. Voilà, c'est ça que vous voulez dire.
Mais ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce que vous demandez ce matin à Pierre-Yves Bournazel, candidat donc Horizon Renaissance, de se retirer si jamais il était qualifié au second tour, je termine. Est-ce que vous demandez aussi à Édouard Philippe, qui est le patron d'Horizon, de faire pression sur lui ?
Non, mais je partage la conviction exprimée publiquement par Édouard Philippe, d'ailleurs dont je souhaite très clairement une élection franche au Havre. Il a dit lui-même qu'au soir du premier tour, il fallait que tout le monde se rassemble. Et je suis exactement sur cette ligne. Je regrette la division. Il y a une chose qui est claire, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est un, que la ville de Paris n'est pas bien gérée, et que les Parisiens en ont assez, qu'il y a besoin d'alternance. Il y a besoin d'un changement à Paris pour la propreté, pour les logements, pour le commerce, pour la mobilité. Il y a besoin d'un changement.
Et Pierre-Yves Bournazel, c'est pas le changement ?
Le changement, c'est Dati. Voilà ce que je pense. Tous les sondages le montrent. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans votre question. Le deuxième tour sera clairement entre le candidat du Parti Socialiste et ses alliés et Rachida Dati. Le changement à Paris, c'est Dati.
Et si le changement passe par une alliance ou un accord avec Sarah Knafo. Qu'est-ce que vous diriez ?
Vous avez interrogé les uns et les autres, Madame Dati, sur cette question. Elle a été extrêmement claire, permanente dans ses réponses. Il n'y aura pas d'accord avec Madame Knafo. Voilà.
Quitte à perdre Paris, plutôt que de toper avec l'extrême droite.
On ne perdra pas Paris, et les Parisiens veulent changer. J'aime bien la manière dont vous dites perdre Paris. On ne va pas perdre Paris. On va changer la majorité de gauche qui gère mal Paris.
Si la gauche passe parce qu'il n'y a pas d'accord entre Mme Knafo et Mme Dati, c'est que vous
perdez
Paris.
La question, c'est comment, dès dimanche prochain, tous les Parisiens et les Parisiennes qui veulent changer, et je pense qu'ils sont une grande majorité à Paris, y compris des gens de gauche qui voient les insuffisances et les promesses non tenues de la municipalité actuelle, socialo-communiste, je pense qu'il faut que, dès le premier tour, Rachida Dati fasse le meilleur score possible pour entraîner l'union et gagner Paris.
Vous pensez que Pierre-Yves Bournazel peut être convaincu ? Vous croyez à ce rassemblement ?
Je souhaite, et j'ai entendu la personnalité qui l'accompagne dans sa vie politique et Édouard Philippe dire qu'il fallait le rassemblement. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire au deuxième tour.
Rachida Dati, qui va être jugée en septembre prochain pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance dans l'affaire Renault-Nissan. Que se passe-t-il si, par exemple, Rachida Dati était condamnée dans cette affaire? C'est à l'automne, elle va être jugée.
Vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment de questions qui se posent pour qu'on puisse les traiter?
Non, mais c'est un élément aussi important pour ceux qui vont voter à Paris.
J'ai entendu Rachida Dati dire que cette affaire était claire, qu'elle avait de quoi se défendre. Elle n'est pas condamnée, elle a droit, comme tout le monde, comme tout citoyen, ni plus ni moins, à la présomption d'innocence. Voilà ce que je veux dire à ce sujet. Voilà.
On passe à Marseille, autre grande ville évidemment. La candidature de la LR, Martine Vassal, ne prend pas. Pourtant, elle est implantée depuis longtemps, Martine Vassal. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a une focalisation, pour l'instant, qu'on voit, mais je vous recommande de ne pas écrire le résultat du premier tour avant que les citoyennes se prononcent.
Et vous avez raison, mais sa citation du maréchal Pétain ne l'a pas servi.
Oui, je pense qu'en effet, c'était maladroit, mais elle s'en est expliquée très bien et on ne va pas faire trop d'histoire là-dessus. Parce que le parti... je connais bien Martine Vassal et je suis convaincu de ses convictions, qui sont des convictions républicaines, il n'y a aucun doute là-dessus.
Est-ce que le parti, justement, sur cette question-là, l'a rappelé à l'ordre? Est-ce qu'il y a eu une explication entre le parti et la candidate?
Non, elle n'a pas eu besoin de rappel à l'ordre. Elle a dit elle-même qu'elle avait fait une erreur. Mais je connais ses convictions. C'est une très bonne élue. Elle a fait ses preuves dans la gestion locale et départementale. Et il n'y a pas de polémique sérieuse à avoir là-dessus, sauf à faire de mauvais esprit.
Vous évoquiez tout à l'heure Édouard Philippe. Il joue aussi, lui aussi, gros au Havre, hein, face aux communistes. La partie, à l'évidence, ne semble pas gagner. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas élu, il ne sera pas candidat à la présidentielle?
Vous êtes marrant à me poser des questions qui ne se posent pas aujourd'hui.
Vous êtes invité de questions politiques, Michel Barnier. On pose toutes les questions politiques.
Mais elles sont légitimes, vos questions, mais mes réponses le sont aussi. Elles sont en tout cas sincères. Moi, je pense qu'Edouard Philippe va être élu au Havre, et je le souhaite. Et les Havrais auraient beaucoup de raisons de lui faire confiance à nouveau, parce qu'il a bien géré cette ville et l'a modernisée dans le prolongement de l'action d'Antoine Ruffnac.
Allez, on passe à la présidentielle, parce qu'il y aura des leçons des municipales qui sont peut-être intéressantes aussi pour la présidentielle.
Oui, je pense en effet que. Je vais vous dire un mot de ça. Là où on est unis, et c'est le cas à Lyon et dans beaucoup de villes, on peut gagner ou on va gagner. Là où on est désunis, on va perdre. Donc la première leçon des municipales, c'est grandeur nature, un appel à l'unité pour qu'il y ait un seul candidat de la droite et du centre aux élections présidentielles.
Alors justement, vous faites un appel à l'unité, sauf qu'il y a quand même déjà une inflation de candidats ou de candidats potentiels au sein du bloc central. Édouard Philippe est déjà déclaré candidat, Gabriel Attal pourrait l'être après
le municipal. En fait, pas la liste, elle est très longue.
Gérald Darmanin, Bruno Retailleau est lui déjà candidat à droite. Donc qui va les départager? Est-ce que vous dites, finalement ça va être les sondages, on va voir ce qui se passe à l'automne, ou est-ce qu'il faut une primaire?
Non, je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. D'abord les municipales, test grandeur nature, et vous allez le voir, un appel de la base venant du terrain de toutes les communes de France où on est capable de s'entendre, et d'ailleurs après les élections, on travaille ensemble malgré les différences. Donc un appel à l'unité qui va monter et auquel je pense que tous les leaders que vous avez cités et d'autres qui ne sont pas encore candidats peut-être seraient bien inspirés de faire attention. Deuxièmement, le travail en commun. Moi, avec d'autres, nous travaillons à ce que pourrait être le tronc commun d'un programme rassemblant les hommes et les femmes de la droite républicaine et des différents mouvements centristes, enfin ceux-là même.
Ça va d'où à où, ça?
Oui, et puis je ne comprends pas trop ce que vous dites. C'est une forme de décantation, on met des...
Oui, mais il faut apprendre à être patient.
On attend ce qui se passe dans les sondages.
Il faut apprendre à être patient, à garder votre sang-froid, votre calme, comme j'essaie de le garder devant vous, et prendre les choses dans l'ordre. C'est compliqué, je ne vais pas vous dire que c'est simple. S'il y avait un seul candidat, comme ça a été le cas de temps en temps, à gauche ou à droite... Pas tout le temps d'ailleurs, il y a parfois eu des divisions, on le saurait.
Donc vous n'êtes pas pour une primaire en fait, vous dites
les municipales d'abord, ne perturbons pas ce moment de démocratie du quotidien. Deuxièmement, un travail sur le fond, parce que pour respecter les Français qui nous écoutent, c'est bien de parler des ambitions des uns et des autres, c'est mieux de parler de ce qu'on veut faire pour l'autorité républicaine, la liberté d'entreprendre, maîtriser l'immigration, assurer l'influence de la France. Il y a des sujets de fond sur lesquels il faut travailler ensemble. Et enfin, on verra les sondages qui vont jouer un rôle pour amener de la lucidité là où elle n'est pas spontanée, si je puis dire, parmi tel ou tel candidat, et sans doute peut-être, si, comme l'a proposé Gérard Larcher, peut-être à la fin de la route, à l'automne, au début de l'automne, un système de primaire, mais qui est compliqué à organiser techniquement et surtout entre plusieurs familles politiques qui ne sont pas les mêmes.
Que de qui à qui, de d'Attal jusqu'à Retailleau
Je pense que les primaires entre des gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont travaillé ensemble dans le passé, notamment quand j'étais Premier ministre, moi j'étais très fier d'animer, ça n'a pas été spontané, il a fallu cultiver cette unité, ce que j'ai appelé le socle commun, c'est-à-dire les mouvements centristes et les républicains.
Jusqu'à Sarah Knafo ?
Non, je vous ai dit, républicain, il n'est pas question pour moi de faire une quelconque alliance avec l'extrême droite.
C'est ce que Laurent Wauquiez souhaite pourtant.
Mais peut-être, mais ce n'est pas ce que je souhaite.
Voilà. Vous parlez des attentes de terrain, qu'il fallait écouter les attentes de terrain qui vont s'exprimer pendant les élections municipales. Si ces attentes de terrain, c'est l'union de la droite républicaine et l'extrême droite, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous dites, bah non, on ne l'écoute pas cette fois-ci ou...
Non, je ne crois pas que ce sera ce message-là qui remontera. Celui qui remontera dans toutes les communes où nous sommes candidats, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance avec l'extrême droite et que les candidats ou les élus de la droite républicaine, dont je fais partie, il m'est arrivé d'être libre dans mon parti, mais je suis resté loyal, jusqu'aux différents mouvements centristes et peut-être d'autres qui nous ont quittés, des électeurs. Je n'ai pas de problème pour parler aux électeurs qui votent Gnafo, Zemmour ou Bardella, ou même Ciotti, j'ai pas de problème pour parler, essayer de les convaincre de revenir à des positions sérieuses et raisonnables, plutôt que de les laisser aller à des positions démagogiques et nationalistes. J'ai pas de problème, pas plus que j'ai de problème pour parler à des gens du centre-gauche, et surtout à des électeurs qui ne croient plus en la politique. C'est ça qui est important, c'est de convaincre qu'il y a au centre-droit, à la droite et au centre, des hommes et des femmes qui méritent à nouveau le respect et l'attention et le soutien.
Michel Barnier, vous êtes l'invité de Questions Politiques. On va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Questions Politiques.
Et voici l'archive qu'Alix Bouyaguet nous a fait remonter.
J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... Non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile.
On vient de vous entendre, hein, vous êtes sur le perron de Matignon lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal. Nous sommes le 5 septembre 2024. Les Français découvrent un style Barnier, pince sans rire, une dose de flegme mais d'ironie mordante. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ce jour-là à Gabriel Attal qu'il fallait rester modeste en politique ?
Il faut toujours être modeste, mais ce n'était pas ça du tout. C'était d'ailleurs une rencontre assez improvisée et publique. Il a parlé très longtemps, il m'a dit que tout
trop
était
longtemps.
Prêt. Très longtemps, il m'a dit que tout était prêt sur le bureau et je n'avais rien vu sur le bureau et que je n'avais plus qu'à signer. Je lui ai demandé si je pourrais avoir une petite valeur ajoutée comme Premier ministre. Voilà, donc c'est pas que c'est devenu collector, cette passation de pouvoir, mais bon, je l'estime pour Gabriel Attal et on a bien travaillé ensemble.
Vous avez passé 99 jours à Matignon. Le 4 décembre 2024, vous chutez sur une motion de censure. D'après un indiscret dans la tribune dimanche, Emmanuel Macron aurait jugé devant des proches que vous avez été trop rigide. Vous êtes arc-bouté sur les 50 milliards d'économies. Vous n'avez pas voulu pactiser avec les socialistes comme Sébastien Lecornu l'a fait. Est-ce que vous n'avez pas échoué dans votre mission la France d'un budget ?
Madame Bouyaguet, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Au moins, dans ce que vous venez de dire, je n'ai pas refusé de discuter avec le Parti Socialiste. C'est lui qui a refusé de discuter avec moi 10 jours après ma nomination de Premier ministre et qui m'a expliqué qu'ils avaient un engagement formel avec M. Mélenchon, toujours lui, que le premier ministre après la dissolution devait être un Premier ministre de gauche. Et comme je n'étais pas de gauche, il voterait la censure.
Donc votre tête devait tomber, quoi qu'il arrive.
J'ai été prévenu 10 jours après, je n'avais pas ouvert la bouche, je n'avais pas de programme, je n'avais pas encore de gouvernement, 10 jours après ma nomination, et je l'ai dit à M. Vallaud le dernier jour, le jour où je suis tombé, grâce à lui et grâce à la conjonction des votes, je ne l'oublie pas, j'ai pas de rancune, mais j'ai de la mémoire, entre Mme Le Pen et M. Mélenchon qui ont voté la même chose contre nous. M. Vallaud était de cela aussi. Je lui ai dit cela. Vous m'avez fermé la porte dès 10 jours après, et tout le reste c'est du cinéma. Ils avaient un engagement dont ils se sont déliés, sans doute maintenant, avec M. Mélenchon. Quant au Rassemblement National, son vote n'est pas non plus lié, vous le savez bien, au budget, mais il est plutôt lié à la situation personnelle de Mme Le Pen à ce moment-là, fin novembre.
Donc votre sort était scellé en quelque sorte.
J'avais un chemin très étroit. Et je le savais. J'ai accepté d'être Premier ministre parce que je pense qu'il faut servir son pays quand on vous le propose. Et à ce poste-là, je ne regrette pas d'avoir accepté. J'ai fait de mon mieux pour être digne, pour dire la vérité aux Français et pour essayer de relever la ligne d'horizon. Et je vais continuer.
Et vous n'auriez pas pu faire autrement? Vous n'avez pas un regret en vous disant « Tiens, si j'avais joué cette
Non, je ne crois pas, parce qu'à ce moment-là, pour les deux raisons que je viens de vous dire, les raisons liées à la situation de Mme Le Pen d'un côté et la décision partisane, comment dirais-je, totalement liée à l'actualité du Parti Socialiste et de son alliance avec M. Mélenchon, je ne crois pas que j'aurais pu obtenir un accord à la fin avec des gens qui n'ont pas été à la hauteur de la situation. Quand vous êtes Premier ministre, vous n'avez que des problèmes à gérer. Et je n'avais que de mauvaises nouvelles, sauf pour quelques secteurs que je voulais protéger, comme la santé mentale ou les soins palliatifs. Mais je n'avais que de mauvaises nouvelles pour faire des économies, pour réduire la dette. Pour réduire la dette qu'on laisse peser sur la tête de nos enfants, et ça suffit. Donc, il fallait que l'on soit responsable, et j'espérais que je trouverais un chemin, je ne l'ai pas trouvé, mais je n'en suis pas davantage moins résolu à traiter les problèmes de mon pays.
Alors, traiter les problèmes du pays comment? À droite, c'est vrai qu'on vous a longtemps cru ou vu comme un homme modéré, et en fait, on vous découvre un petit peu radical pendant la primaire de la droite en 2021, avec des propositions choc, retraite à 65 ans, super ministère de la Sécurité, puis surtout... l'instauration d'un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. Alors, à l'époque, ça fait vraiment polémique. Finalement, vous êtes où? Est-ce que vous assumez d'être, d'une certaine manière, ce qu'on appelle la droite dure?
Non, je suis d'une droite qui est soucieuse de l'autorité de l'État, qui est populaire, qui est sociale aussi. Je viens du gaullisme social. Et j'entends d'ailleurs le ministre actuel de la Justice, M. Darmanin, dire à propos de l'immigration exactement ce que j'ai dit il y a 3 ans. Lui-même oui. A parlé d'un moratoire, vous vous en souvenez, puisque vous êtes une bonne journaliste. Monsieur Darmanin a dit la même chose que moi, mais il l'a dit 3 ans après. Donc la question n'est pas d'être dur ou pas dur, la question est de traiter les problèmes qu'affrontent les Français. Et si on ne traite pas nous-mêmes les problèmes avec notre méthode, qui est une méthode rigoureuse, respectueuse et humaniste, ce seront d'autres qui la traiteront. Permettez-moi de vous le dire, parce que l'hypothèse de l'élection d'un candidat d'extrême droite à la présidence de la République n'est pas une hypothèse farfelue. Donc, si on ne veut pas que ça se produise, il faut qu'on traite les problèmes en matière d'immigration, en matière de travail, de mérite, en matière de liberté d'entreprendre, de réduction des normes.
C'est un quasi-programme présidentiel. Et justement, dans votre récent livre,
j'ai pas tout dit,
ce que j'ai appris de vous, vous racontez une petite anecdote à propos de Donald Trump, hein, que vous rencontrez au moment de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qu'il vous dit, le président américain? Il vous dit, vous êtes grand, vous êtes solide, vous tenez droit, il faut continuer. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, ben, voilà, vous aussi, vous êtes taillé pour la présidentielle? Non, mais... On dit que vous avez une ambition muette et ancienne.
Muette et ancienne, j'ai pas l'habitude d'être muet, même si j'ai quelquefois le souci de la discrétion, de la sobriété comme les montagnards. Je suis pas toujours d'accord avec Trump, mais là il m'a dit des choses intéressantes.
Il vous a dit quoi? Allez-y, lancez-vous 2027, vous êtes taillé pour.
Il a dit, je lui dis, mais j'ai un certain âge, monsieur le président. Et il me dit, mais moi aussi j'ai 78 ans, donc il est plus âgé que moi à l'époque. Continuez, donc voilà.
Ça veut dire quoi? Être candidat en 2027,
non, continuez,
Michel Barnier?
Continuez à être utile, madame Bouygues.
Ah non, mais utile, tout le monde dit veut être utile.
Non, j'ai pas dit vote utile, j'ai dit contraigné. Oui. Ce qui me concerne est utile. C'est pour ça que, après avoir quitté Matignon, avec mes équipes, nous avons réfléchi à savoir si je devais continuer ou ne pas rester dans l'action politique. On a décidé, choisi ensemble, que je resterai. Voilà pourquoi j'ai sollicité la confiance des Parisiens dans la deuxième circonscription.
Mais ça veut dire quand même que vous êtes là en embuscade. Au cas où, si la décantation de l'automne vous fait émerger, vous irez banco.
Est-ce que vous avez le sentiment que je suis en embuscade là devant vous? Pas du tout. Je suis clair, bien dans mes bottes et prêt à être utile et à affirmer l'exigence d'unité de la droite et du centre. Unité, c'est pour moi la clé. Un seul candidat au premier tour pour être présent au deuxième, sinon nous ne serons pas présents au deuxième tour. Et puis un programme sérieux de redressement, de rassemblement du pays pour éviter les extrêmes. Et enfin, un président qui devra être compétent, tenace et courageux, y compris avoir le courage d'être impopulaire.
Et une des compétences aux mains du président Michel Barnier, c'est évidemment la dissuasion nucléaire. C'est votre carte blanche.
C'est pas, ma carte blanche n'est pas seulement celle de la dissuasion, ou pas d'abord celle. C'est le sentiment que j'ai éprouvé, comme beaucoup de Français, après le discours du président de la République, qui a été à la hauteur de sa responsabilité l'autre jour à l'île Longue, d'entendre venant des rangs des soldats cette Marseillaise. Et j'ai éprouvé un moment de fierté, comme beaucoup de Français, fierté d'être Français. Je me dis que on vient de parler 40 minutes de ce qui se passe dans le monde et en France, de beaucoup de drames, de tragédies, beaucoup de raisons d'être pessimiste. Et moi, je pense que dans notre pays, on a des raisons d'être optimiste, d'être fier d'être français. J'écoutais cette Marseillaise, mais on a eu le même moment de fierté au moment des Jeux Olympiques, et pas seulement avec les sportifs, ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, je passe aux Jeux Paralympiques à Cortina, qui font des exploits. C'est la capacité d'organiser un grand événement, la fierté aussi qu'on éprouve quand on visite des usines. J'étais l'autre jour à Lille dans une entreprise de textile où je voyais des difficultés, mais aussi un espoir, une volonté de travailler ensemble. Je vois des exploitations agricoles où, malgré les normes, les impôts, des gens qui se battent, des jeunes qui veulent continuer à produire. Je vois, nous sommes aujourd'hui, c'est la journée des Restos du Cœur, des bénévoles par centaines de milliers qui font vivre la République dans ce pays et qui donnent une belle image de la République, de l'unité nationale. Moi, je veux dire qu'il y a parfois des raisons de pessimisme, mais aussi des raisons d'être fier d'être français et de penser que notre pays vaut la peine qu'on se batte pour lui. Et c'est ce que je veux faire en me battant pour lui à la place où je suis.
Vous parliez d'usine il y a une seconde. Alors, ça nous emmène à 2027. Les questions qui seront au cœur de la présidentielle, c'est le débat à Belmestre sur la réindustrialisation. Comment on fait pour arrêter l'hémorragie industrielle en Europe?
Exactement. Les fermetures d'usines se multiplient en Europe, et tout comme les destructions d'emplois. Rien qu'en Allemagne, 10 000 emplois industriels sont détruits tous les mois. Pour lutter contre cela, la Commission européenne a présenté mercredi un texte qui assume enfin le Made in Europe, une forme de préférence européenne dans l'attribution des marchés publics ainsi que dans le déploiement des aides. Est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard ?
Ça arrive très tard et ça ne suffit pas. D'accord.
Pourquoi ?
Je pense que le prochain président de la République, enfin le principal combat qu'il devra mener, au-delà de la sécurité publique, de maîtriser l'immigration, ce sera de faire que notre pays redevienne une terre de production. Qu'on soit fier de produire dans l'agriculture pour notre alimentation et pour l'industrie, qu'on a abandonné depuis 35 ans, tout politique confondu, comme les Anglais l'ont fait de leur côté. Et je peux dire que c'est une des raisons du Brexit. D'ailleurs, que la désindustrialisation, et moi, il y a des affaires comme celle de Pechiney que je ne pardonnerai pas. Donc, il faut retrouver cette ambition de produire. Et les réponses à ça, elles sont nationales. Elles sont aussi européennes. Je visitais l'autre jour à Laval une entreprise qui est le numéro un en France de la machine-outil, GIS, dont le responsable très dynamique me disait « Au rythme actuel des importations chinoises chez nous, une sorte de tsunami venant des PME, PMI chinoises qui exportent tout et n'importe quoi avec le soutien de leur gouvernement, nous serons les seuls à rester dans 3 ans et demi en Europe dans la machine-outil. Toute industrie allemande aura disparu. Il faut bloquer. » Donc voilà pourquoi cette initiative que vient de prendre la Commission est utile. Je la trouve très compliquée. Il y a plein d'incertitudes. Il y a beaucoup d'exceptions qui sont prévues, notamment avec des pays avec lesquels nous avons des accords commerciaux.
Vous parlez du Made in Europe qui pourrait profiter aux pays qui ont des accords de libre-échange avec les pays,
donc,
les États membres de l'Union européenne.
Aussi, comment lutter, c'est ce qu'on appelle les règles d'origine à Bruxelles, contre le risque d'assemblage de produits qui viennent de l'extérieur, qu'on assemble et qu'on
exporte. Qu'on fait passer pour du Made in Europe.
C'est aussi que j'avais quand j'ai négocié le Brexit, que d'éviter que le Royaume-Uni devienne un pays d'assemblage. Mais il faut aussi des taxes, il faut des tarifs à l'importation pour
ça
bloquer.
Ça se fait au niveau du pays, est-ce que vous êtes d'accord avec une partie de la gauche qui dit qu'il faut rehausser les droits de douane, il faut un protectionnisme économique
au niveau de l'Europe? Non, il n'y a pas de droits de douane en France. Seulement, les droits de douane, ils sont européens. Les droits de douane, nous avons une politique commerciale et c'est l'Europe qui doit réagir avec un peu plus de vitalité et de courage que n'en a eu Mme von der Leyen l'autre jour quand elle est allée un peu humiliée en Écosse négocier avec M. Trump. Il faut utiliser mieux que nous ne l'avons fait dans les quelques mois passés la force, notre seule force actuelle, qui est celle du marché unique et qui est bien davantage qu'une zone de libre-échange. C'est un écosystème complet de 450 millions de consommateurs et de 22 millions d'entreprises. Ça, c'est notre force et il faut la mettre en face des Chinois, très clairement, qui d'ailleurs sont très surpris. qu'on ne défende pas mieux nos intérêts stratégiques comme ils le font eux-mêmes et face à l'agressivité américaine.
Mais
aussi.
Ça peut les braquer encore plus. Or, l'industrie européenne, elle est dépendante encore des
terres rares chinoises. Je ne crois pas que les
Chinois
seront braqués.
Et ça pourrait aussi entraîner des effets contre-productifs.
Je ne crois pas. Écoutez, l'effet contre-productif, c'est qu'actuellement, l'industrie de l'automobile, de la chimie, de la machine-outil sont actuellement méthodiquement détruits par les exportations chinoises. Je ne crois pas que ça braquera davantage les Chinois si nous faisons nous-mêmes, en défendant nos intérêts, avec clarté et sans complexe, comme ils le font eux-mêmes pour leurs intérêts.
Mais il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne entre les États.
Non, il n'y a pour l'instant pas de consensus.
Et notamment entre la France et l'Allemagne. Comment faire sans ce consensus ?
Eh bien, il faudra le construire en rétablissant un dialogue un peu confiant. Vous savez, le dialogue franco-allemand, sauf du temps de Giscard et Schmitt, mais quand on remonte à De Gaulle et Adenauer, ce dialogue allemand, il n'a jamais été franco-allemand spontané. Il a toujours été construit par la relation entre les deux responsables. Et je pense aussi, pour tout vous dire, que ce dialogue franco-allemand, il est de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisant. Il y a d'autres grands pays en Europe, et plus petits, qui comptent, notamment la Pologne ou l'Italie.
Il en est où, en ce moment, le dialogue franco-allemand, à votre avis ?
Il ne va pas bien. Il va pas bien, on le voit pas seulement sur la question de l'avion de chasse, mais aussi sur le tank. Il y a beaucoup d'incompréhension, et je pense qu'il est temps que le président français, celui d'aujourd'hui et celui de demain, et que le chancelier allemand, Friedrich Merz, se retrouvent et coopèrent. C'est parce que quand il n'y a pas de dialogue franco-allemand, tout se bloque. Quand il y a un dialogue franco-allemand, ça suffit pas. Je vous l'ai dit, de moins en moins suffisant. Il faut penser aux autres. Et quelle que soit leur taille, moi je pense que chaque pays européen a une valeur ajoutée, du plus petit au plus grand.
Et l'Allemagne qui se réarme, qui met beaucoup d'argent désormais dans sa défense, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que ça peut vous redouter quelque chose ?
Non, je ne redoute pas. Je pense que c'est bien, parce que l'état de l'armée allemande était très mauvais et mal entretenu. Donc ils avaient du temps à rattraper, mais... Comme l'Allemagne était mieux gérée que la France sur le plan budgétaire, ils ont de l'argent que nous n'avons pas. Donc ça veut dire aussi qu'il faut une politique de bonne gestion des finances publiques en France.
Est-ce que ce dialogue franco-allemand, il ne pourrait pas se reconstruire justement contre l'acier chinois, qui n'est pas concerné par le texte de la Commission européenne ? Est-ce que ça pourrait être quelque chose
comme
qui...
Pour les élections, moi je rêve du jour où les Français voteront pour plutôt que voter contre. Donc on doit reconstruire le dialogue franco-allemand, non pas contre l'acier chinois. À coup sûr, il faut marquer un coup d'arrêt sur certaines exportations chinoises qui sont massivement subventionnées d'une manière ou d'une autre par les autorités chinoises et qui détruisent nos emplois. Et je pense qu'on doit reconstruire le dialogue franco-allemand, non pas contre les Chinois seulement, ou pas d'abord, mais pour l'Europe.
Justement,
une certaine idée de l'Europe.
L'idée du Made in Europe ne convainc pas tous les politiques en France, notamment à gauche et à l'extrême droite. Et ils disent, en gros, ça ne sert à rien parce qu'il y a du dumping au sein même de l'Union européenne. Comment on peut lutter contre ce dumping au sein des États.
Et vous avez à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, c'est le moment de le dire, parce que, et je le répéterai d'ici 2027, des hommes et des femmes qui sont nationalistes. Et moi, je pense, comme Mitterrand l'avait dit un jour, que le nationalisme, c'est la guerre. Donc, il faut défendre notre nation, on doit défendre notre patrie, je pense même qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Voilà pourquoi je ne suis pas fédéraliste au niveau européen, mais on a besoin de travailler ensemble et de respecter le cadre européen. Donc, que ces responsables d'extrême droite ou d'extrême gauche disent qu'ils sont contre le Made in Europe, ils ont tort.
Mais quand même, Michel Barnier, il faut bien reconnaître que le Made in Europe, si on le favorise, les usines ne s'ouvrent pas en France. Les usines automobiles, elles s'ouvrent en Europe de l'Est, par exemple. Ils n'ont pas totalement tort.
Vous avez de grandes usines automobiles en France, et vous avez bien d'autres raisons. Vous devriez aller, entre deux émissions, visiter le salon Made in France, qui s'est tenu il y a quelques semaines à Paris et qui était formidable. Vous aviez des centaines et des centaines de petites, de grandes, moyennes entreprises qui fabriquent français et qui sont fiers. Voilà pourquoi je vous dis que ce pays mérite qu'on se batte pour lui.
Vous aviez proposé un plan d'épargne en 2024 pour la réindustrialisation. Qu'en est-il ?
Oui, je pense que... pour ça qu'il ne suffit pas d'être en défensive. Il faut... être moins naïf dans nos négociations commerciales, y compris au Mercosur. Il faut protéger nos temporairement peut-être par des tarifs contre les exportations massives des Chinois. Il faut résister aux Américains, y compris par la guerre des tarifs s'ils l'amènent contre nous. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir investir au niveau européen. J'ai été très heureux que l'Europe soit capable, au lendemain du Covid, d'emprunter 750 milliards pour investir dans le redressement du pays et de nos pays après le Covid. Je pense qu'il faut être capable d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Et s'agissant de la France, de mobiliser l'épargne, qui est très abondante, d'autant plus que les gens sont inquiets. Et je continue à penser qu'il faut, je l'ai dit au gouvernement actuel, livrer d'épargne industrielle qui mobilise une partie des fonds qu'épargnent les Français qui les encourage fiscalement à investir dans la production agricole et industrielle.
Michel Barnier, voici les deux dernières minutes de l'émission. On finit la séquence comme d'habitude.
Ça passe vite, votre émission.
Hein, je vous remercie, c'est parce que ça doit être intéressant. Allez, le vrai-faux n'est pas moins intéressant. Vous avez le droit de me dire vrai ou faux. Éventuellement, une phrase d'explication, c'est parti. La question 8 mars. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, il est temps de dégenrer la devise au fronton du Panthéon. Vrai ou faux ?
C'est une proposition vraie qui a été faite, mais je ne la crois pas opportune.
Ouvrir le parapluie nucléaire français aux Européens, c'est se préparer à perdre notre pleine souveraineté. Vrai ou faux ?
C'est faux. C'est faux. Le président de la République a été très clair. Il y aura une souveraineté dans la décision, dans la conduite. Mais il y aura un dialogue avec les Européens pour définir ce que sont nos intérêts stratégiques.
Une question à l'homme d'Albertville. Ça tangue fort en ce moment à la direction du comité d'organisation des JO 2030. Même le numéro 2 a donné sa démission. Le président des JO 2030 du COJOP, Édouard Gros-Piron, devrait maintenant songer aussi à démissionner. Vrai ou faux ?
C'est faux, je pense qu'on a des raisons de lui faire confiance, nous l'avons choisi, et de l'aider, de l'accompagner à trouver la bonne gouvernance de ce comité. C'est toujours compliqué, jeux d'hiver, d'organiser des Jeux Olympiques, je le dis d'expérience.
Vendredi soir, l'ouverture des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina, les athlètes russes qui défilent avec leur drapeau, ça vous a choqué, vrai ou faux ?
Oui, je pense qu'on n'aurait pas dû accepter que, pour les raisons liées à l'actualité et à l'agression russe, les Biélorusses aussi, les Russes défilent avec leur drapeau.
Il nous reste 30 secondes, on va essayer de faire avec du vrai et du faux seulement. Un peu de politique fiction, 2027, deuxième tour, Mélenchon-Bardella, vous vous abstenez, vrai ou faux ?
Vrai.
Vous avez été le négociateur du Brexit, un jour le Royaume-Uni demandera à l'Union Européenne l'annulation du divorce, vrai ou faux ?
Ça, je... J'ai toujours regretté.
Vous calez.
Non, je ne cale pas
vous
du tout.
Vous souhaitez ?
Bien sûr, j'ai regretté le Brexit, qui est un non-sens du point de vue de l'intérêt national britannique, le jour où les Britanniques, mais c'est leur choix, c'est pas le nôtre. Le choix, vous pourrez revenir, ils seront là et nous discuterons avec eux.
Michel Barnier, merci d'avoir répondu à nos questions politiques, auditeurs, téléspectateurs. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Un excellent dimanche à vous.